Favet sur BFM Radio.
Bonjour et bienvenue dans Chine Hebdo ce week-end. À la une, le tandem Pékin-Moscou. Hu Jintao était en Russie cette semaine pour une visite d'État. Où en est la relation entre ces deux pays qui sont historiquement liés? Comment ce tandem fonctionne-t-il? On en parlera dès le début de cette émission avec le sinologue Jean-Pierre Cabestan. Il sera notre invité. On parlera également aéronautique cette semaine. Salon du Bourget oblige. Sophie Faure notamment nous dressera la saga de l'aéronautique en Chine. Où en sont les ambitions de ce pays dans ce domaine? Et puis notre patron de la semaine sera le directeur de Cathay Pacific pour la France. Cathay Pacific, la première compagnie de Hong Kong. On parlera bien sûr de l'état du transport aérien en Asie. Notre dossier de la semaine, le top 30 des villes chinoises qui consomment. Si le haut du classement ne bouge pas, on voit émerger toute une nouvelle vague de bassins de consommation en dehors de Pékin, Shanghai ou encore Canton. Ce sera donc notre dossier dans la deuxième partie de l'émission. Et puis un quart d'heure culture chargé de livres avec la chronique littéraire de Stéphane Fierre. Et puis Michel Amiot qui viendra nous présenter son livre La Chine au bois dormant. Chine Hebdo, c'est parti.
Chine Hebdo, l'économie made in China sur BFM Radio.
Et pour commencer Chine Hebdo, on va parler de télévision avec une série chinoise bien sûr qui rencontre en ce moment un énorme succès à la télé et sur le net également, ne jamais oublier Internet en Chine. Une série qui reflète la réalité de la classe moyenne chinoise et surtout qui parle des jeunes qui sont nés après 1980, la première génération qui a été confrontée à la libération sexuelle et économique. Ana Fuentes, bonjour.
Bonjour.
Ana Fuentes, journaliste en Chine, habituée de Chine Hebdo. Vous allez nous en dire un petit peu plus sur cette série. De quoi s'agit-il et qu'est-ce qu'elle révèle exactement?
Alors, la série s'appelle « Qui est le maître de ma jeunesse ?» ou tout court « jeunesse », comme on dit ici dans la rue. Elle a réussi à mettre tous les membres de la famille chinoise autour du petit écran. Il y a eu déjà plus de 5,3 millions de visites sur le site Youku, le YouTube local. Voici le générique. Bao Gangtao et Ying Wang sont très connus dans le monde des séries télé en Chine. Ils ont décortiqué la classe urbaine chinoise en 32 épisodes d'environ 40 minutes chacun. Et surtout ce que l'on appelle la génération Balinghou, c'est-à-dire les jeunes Chinois nés après 1980, avec les réformes économiques. On retrouve 6 personnages principaux, 3 cousines d'un milieu social très différent. Une qui est avocate, l'autre qui habite en province et qui veut trouver un travail à Pékin, et une troisième qui rêve d'ouvrir un restaurant. Puis il y a leur mère, des femmes dans la cinquantaine, qui représentent la génération qui a connu la révolution culturelle. Pour mieux comprendre, nous allons écouter l'extrait d'un épisode, puis l'opinion d'une fan de la série.
J'aime bien cette série. Je pense qu'elle montre bien la réalité de Pékin et d'autres grandes villes en Chine. Elle raconte plein d'histoires sur la culture pékinoise. Il y a même des nouveaux mots d'argot. Les protagonistes représentent les deux générations les plus importantes dans la société chinoise de nos jours et les plus grands changements. Par exemple, Internet, le divorce et son influence sur les enfants.
Venez d'entendre Yuan Bonat, pékinoise de 27 ans, donc née après 1980. Elle est professeure et elle trouve que la série est 70% fidèle à la réalité.
Alors cette génération justement post-80, Anna, elle fait de l'objet de livres, d'études, de reportages de plus en plus. Ces jeunes-là, comme cette fan que vous êtes allée rencontrer, ils commencent à jouer un rôle dans le regard qu'ils portent sur les jeunes générations.
Très souvent. Les Chinois nés après 1980 sont critiqués par la société ici. En effet, ce sont des enfants uniques, nés sous le contrôle des naissances. On les considère comme choyés, égocentriques, qui ne s'intéressent qu'à l'argent et à Internet, pas à la famille, qui ne veulent pas se marier. Il faut dire qu'ils ont grandi dans une société en mutation sociale et économique. Inévitablement, ils cherchent des nouveaux repères spirituels et même idéologiques. Pour Yuan Bonat, des séries comme Jeunesse contribuent à redonner leur dignité aux Chinois.
Grâce à ce genre de série télé, on peut voir à quel point la Chine est en train de s'ouvrir et se développer. Parmi toutes les séries, celle-ci donne l'image la plus fraîche et actuelle du pays.
jeunesse porte donc un regard sincère sur le quotidien des classes moyennes chinoises, mais surtout, elle a réussi à insuffler un peu d'air dans les poumons de la chaîne nationale CCTV, d'habitude terne et monotone. La toile chinoise insiste sur le fait que c'est une des rares émissions sans propagande que l'on peut regarder sans s'endormir.
Ah oui, ça c'est un signe, en effet. Donc un véritable phénomène de société que cette série jeunesse. Merci beaucoup Ana Fuentes. À très bientôt dans Chine Hebdo.
Chine Hebdo sur BFM Radio.
Et la semaine a donc été marquée, entre autres, par le tandem Chine-Russie, avec notamment cette visite d'État de Hu Jintao en Russie. Il y avait également une succession de sommets en début de semaine à Yekaterinbourg, qui a accueilli successivement le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui regroupe la Russie et la Chine, et également quatre autres pays d'Asie centrale. Il y avait également le premier sommet du BRIC, ce fameux groupe du BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine. Comment est-ce que la Chine navigue avec ses autres grandes économies émergentes? Eh bien, on parle cette semaine dans Chine Hebdo avec le sinologue Jean-Pierre Cabestan. Bonjour Jean-Pierre Cabestan.
Bonjour.
Vous êtes à Hong Kong, directeur du département de sciences politiques à l'université Baptiste de Hong Kong. Peut-être pour commencer sur ce tandem Chine-Russie, donc il y avait cette visite d'État de Hu Jintao cette semaine en Russie. Hu Jintao qui dit tout simplement que la Russie est une priorité de la Chine pour toujours. Est-ce qu'on est en train de... Enfin, est-ce que c'est une nouvelle ère de relations entre les deux pays qui est en train de s'ouvrir, là, Jean-Pierre Cabestan?
Ah ben, pas vraiment une nouvelle ère. Ça fait plus de 10 ans que les relations entre la Chine et la Russie sont bonnes, et sont même très bonnes. Il faut remonter aux années 95-96, à l'époque de Yeltsin, pour que d'abord les deux pays concluent un accord de partenariat stratégique, dans ce qui montre l'importance de la relation, après, comme vous le savez, des années de brouille, mais Gorbatchev avait déjà tracé le chemin d'une normalisation. Mais avec Yeltsin et ce sommet de 96, on entrait dans une nouvelle période qui s'est consolidée avec Poutine. Les deux pays ont accru leurs échanges, mais surtout, la Russie est devenue le principal fournisseur d'armes à la Chine au moment où les pays occidentaux boycottaient ce client. Donc, cette dimension est devenue très importante, et puis s'est ajoutée depuis aussi le début des années 2000 une dimension énergétique, puisque la Chine a besoin de pétrole, de gaz, et que l'ancienne Union soviétique, la Russie d'abord, peut lui fournir ses matières premières. Sur le plan diplomatique, il y a aussi une volonté qui est plus nette avec Poutine que Yeltsin, de contrebalancer la domination américaine, de jouer la carte de la multipolarité et de faire en sorte que ces deux grands géants continentaux, dont le poids économique est assez inégal, se coalisent en forme de questions contre les États-Unis pour faire contrepoids à l'influence des Occidentaux et des pays démocratiques, alors que la Chine est un pays autoritaire et que la Russie évolue depuis le début des années 2000 vers une forme de démocratie dirigée. Donc voilà tous ces facteurs de convergence, mais il y a aussi évidemment des facteurs de divergence et de méfiance.
Qui persistent, mais juste sur ces facteurs de convergence, alors peut-être pas une nouvelle ère, mais est-ce que le contexte actuel, est-ce que la crise actuelle rapproche encore un peu plus ces deux pays malgré tout, Jean-Pierre Cabestan? Enfin, est-ce que ça crée de nouveaux liens, peut-être justement commerciaux, économiques, plus que diplomatiques, des liens diplomatiques qui existaient déjà
J'ai un peu des doutes sur cette question, parce qu'effectivement les liens économiques sont beaucoup plus importants qu'il y a ne serait-ce que 5 ou 10 ans. Maintenant, la Russie est la 8e destinataire d'exportation chinoise. Loin derrière, évidemment, les pays occidentaux comme les États-Unis, le Japon, l'Union européenne. Mais enfin, quand même, c'est déjà un partenaire commercial plus substantiel. Les convergences par rapport à la crise financière internationale sont aussi perceptibles.
Sur les devises, notamment.
Notamment sur la position de principe par rapport au dollar. L'Organisation de coopération de Shanghai, à laquelle vous avez fait allusion, est aussi un facteur de rapprochement entre les deux pays qui ont des intérêts commun dans cette partie du monde, avec lesquels ils sont tous les deux frontaliers. Donc on parle des questions frontalières, les différents frontaliers d'autrefois, tous étaient réglés en 2004 avec des transferts de petits territoires, ne serait-ce que l'année dernière. Donc maintenant, les deux pays n'ont plus de différents frontaliers du tout. Donc vous voyez, tous ces facteurs les rapprochent, mais en même temps, on sent qu'il y a des limites évidentes à cette relation. D'abord parce que je pense que la Russie n'est que la 10e puissance mondiale sur le plan économique, et que peut-être que si elle réussit, elle se hissera à la 5e place, c'est l'ambition de Poutine, mais enfin, elle restera derrière la Chine. Donc les rôles, si vous voulez, le jeu s'est inversé depuis le début des années 2000 entre les deux pays, et peut-être même avant. Et puis, plus généralement, je pense que ces deux pays ont des priorités différentes. La Russie reste quand même pour priorité maintenir une relation de travail avec et commerciale avec l'Europe et puis aussi les États-Unis. Et vous me direz la Chine aussi, mais avec quand même une importance plus grande
des moyens et des leviers plus importants.
Et puis surtout à son environnement asiatique, le Japon, l'Asie du Sud-Est. Donc ce sont des pays qui, pour bien des choses, coopèrent, mais pour plus de choses encore, dans plus de domaines encore, on peut dire, se tournent le dos et surtout restent tiraillés par une certaine méfiance.
Méfiance, voire jalousie de la part de la Russie,
voilà.
Pour être très clair.
Jalousie de la part de la Russie, mais aussi méfiance par rapport à une puissance chinoise qui est de plus en plus nette et avec contre laquelle elle ne peut pas tellement réunir d'alliés pour contrebalancer son influence, notamment dans ces régions limitrophes où elle-même estime, la Russie, avoir un droit de regard prééminent. Ouais. Je pense à l'Asie centrale notamment.
Et ça pose la question également de la cohérence de ce fameux groupe du BRIC. Hein. On a vu ce premier sommet du BRIC cette semaine, Brésil, Russie, Inde, Chine. Justement, votre avis, est-ce que c'est un groupe qui vous paraît cohérent? Vous nous montrez là à l'instant, Jean-Pierre Cabestan, que certes la Russie et la Chine s'entendent bien, mais qu'il y a également des intérêts qui sont divergents. Est-ce que ça se reproduit au sein du groupe du BRIC?
Ah oui, alors le BRIC, j'ai jamais vu un groupe aussi incohérent. Enfin,
c'est le premier sommet en même temps. Jean-Pierre Cabestan.
Oui, alors c'est une tentative honorable. Ça fait penser à, évidemment, on n'a pas beaucoup fait d'allusion à cette structure, mais à un sous-G20, quoi, le G20 des grands pays qui ne sont pas véritablement occidentaux. Mais ce BRIC réunit des pays qui ont des relations extrêmement, de nature extrêmement différente, notamment avec les États-Unis et l'Europe occidentale. Je pense à l'Inde, qui est devenue très proche des États-Unis sous Bush. Je pense au Brésil, qui a toujours été proche de l'Europe et beaucoup plus proche du camp occidental, si vous voulez, que de la Russie ou de la Chine. Alors, c'est vrai que le Brésil,
même si aujourd'hui, voilà,
un partenaire commercial très important. Ouais. C'est vrai que sur un certain nombre de sujets liés à l'OMC, la conférence de Doha, on sent des positions convergentes. Mais là encore, il faut être très prudent parce qu'il y a aussi beaucoup de dissensions, notamment sur l'agriculture, entre le Brésil et l'Inde, entre le Brésil et la Chine. Donc, c'est un peu une construction artificielle dont on doit, d'ailleurs, dans la paternité, revient à un Américain, ce qui est un paradoxe qui s'ajoute au paradoxe du consensus de Pékin, dont aussi on doit qui s'oppose au consensus de Washington, trop libéral, mais dont on doit aussi la paternité à un autre Américain. Donc, une fois encore, la boîte à idées vient d'Occident et non pas de ces pays eux-mêmes, et ce qui montre bien que cette construction risque de produire ses propres limites.
Une alliance un peu artificielle, hein, vous nous dites, Jean-Pierre Cabestan. Merci d'avoir été avec nous dans Chine Hebdo cette semaine pour évoquer donc ce tandem Chine-Russie et plus largement ce groupe du BRIC, hein, qui s'est réuni pour la première fois cette semaine. Jean-Pierre Cabestan, sinologue, bien sûr, directeur du département de sciences politiques à l'Université Baptiste de Hong Kong. Et comme c'est la tradition dans Chine Hebdo, on vous dit au revoir en musique. Un peu de rock chinois dans Chine Hebdo pour faire la transition. On va se retrouver juste après une courte pause. On sera avec notre correspondante à Radio Chine Internationale pour les business news de la semaine. Et puis on accueillera notre patron de la semaine. Il dirige Cathay Pacific en France. Cathay Pacific, c'est bien sûr la grande compagnie aérienne de Hong Kong. Eh bien, on parlera justement en ce moment du trafic passager, du trafic cargo également en Asie avec Mark Such qui sera donc notre invité dans quelques instants.
Vous êtes en charge du développement des ventes de votre entreprise. Votre équipe commerciale vous préoccupe. Niveau de remise délirant, résultats en chute libre, morale en berne. Chef d'entreprise magazine vous invite du 30 juin au 2 juillet prochain à Paris Cap 15. Venez rencontrer et partager l'expérience de 18 experts du management commercial réunis pour vous aider à surfer sur la crise. Retrouvez le programme détaillé du congrès dans Chef d'entreprise magazine, en vente chez votre marchand de journaux ou sur le site actionco.fr.
BFM Weekend.
Chine Hebdo en partenariat avec Radio86.fr pour tout savoir sur la Chine.
Chine Hebdo, Grégoire Favet sur BFM Radio.
Dans un instant, on va parler du transport aérien en Asie puisqu'on sera avec un des responsables de Cathay Pacific, hein, la plus grande compagnie de Hong Kong pour en parler. Mais tout d'abord, c'est l'heure des business news dans Chine Hebdo. Retrouve Xiao Tai depuis les studios de Radio Chine Internationale à Pékin. Bonjour Xiao Tai.
Bonjour Greg, ça va ?
Ça va très bien. Alors, c'était une des grandes nouvelles hein, cette semaine. La Chine aurait cessé d'acheter des bons du Trésor américain hein, puisque voilà, on a pu constater dans les chiffres que depuis la première fois depuis 2008, eh bien une réduction la dette américaine détenue par la Chine se réduisait.
Voilà, la Chine détenait à la fin du mois d'avril 763 milliards 500 millions de dollars contre 767 milliards 900 millions enregistrés à la fin mars. C'est ce qu'affirme un rapport publié lundi sur le site internet du Trésor américain. La nouvelle a été reprise par l'agence Chine Nouvelle et par plusieurs journaux chinois. Pourtant, on ne sait pas si la Chine a vraiment vendu une partie de ces dollars ou il s'agit plutôt de bons qui étaient arrivés à échéance. Le gouvernement chinois ne s'est pas prononcé à ce propos. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a seulement affirmé que la Chine gérait ses devises selon ses propres besoins. Beaucoup d'économistes chinois ont été interrogés cette semaine à ce sujet. Ils sont à peu près tous d'accord sur trois points. Un, la réduction n'est pas assez importante pour le moment pour parler d'une nouvelle tendance. Ça va être 4 milliards 400 millions, c'est infirme presque par rapport au volume total qui dépasse toujours les 700 milliards. Deux, une chute du dollar serait contre l'intérêt de la Chine qui reste aujourd'hui la première créancière des États-Unis. Et trois, pour sortir de ce piège du dollar, si tant est qu'on puisse utiliser ce terme, la Chine devrait plutôt penser à remédier au déséquilibre de son économie, une économie trop extravertie. Bien sûr, il est aussi important, précise ces experts, de chercher d'autres canaux d'investissement. Enfin, quant à la sécurité de la dette américaine, les experts chinois continuent à se contredire. Et selon une enquête réalisée dernièrement par le journal Global Times, 87% des Chinois s'inquiètent pour les dollars que la Chine détient.
Et puis, quelques mots également, Xiao Tai, sur le plan de relance chinois. On a vu dans la presse chinoise que Beijing ordonnait aux gouvernements locaux de favoriser les entreprises chinoises dans le cadre justement de son projet pour lutter contre la crise.
qui pourrait amener à penser au protectionnisme. Pourtant, il s'agit d'une mesure pour lutter contre la discrimination à l'égard des produits chinois, notamment des équipements fabriqués par des sociétés chinoises. Pour Lu Renqi, le vice-président de l'Association chinoise pour l'industrie de l'équipement, certains acheteurs ont tendance à favoriser les équipements étrangers en mettant dans leur cahier de charge des conditions qui exigent que le produit fourni doit déjà avoir été utilisé par d'autres clients et obtenu des commentaires positifs, ce qui revient à élever le seuil pour les fabricants chinois, parce que l'industrie chinoise de l'équipement est toute jeune et qu'elle ne fait que commencer à développer ses propres marques. Ce comportement est assez courant en matière d'achat d'équipement, mais il va tout à fait à l'encontre de la loi sur les achats gouvernementaux en vigueur en Chine depuis 2003. Alors pourquoi cette discrimination? Lu Renqi a expliqué qu'avec la réévaluation de la monnaie chinoise, beaucoup de produits chinois perdent de leur intérêt en termes de prix, tandis que des produits importés bénéficient de l'exonération de droits de douane. Et puis, ça peut se comprendre également, les acheteurs n'aiment pas trop les marques toutes nouvelles, histoire d'éviter les risques, surtout quand il s'agit de grosses machines. Une raison de plus pour le gouvernement chinois de protéger un peu sa propre industrie contre les inégalités. Je rappelle que dans le plan de 4 000 milliards de yuan qui a été lancé par le gouvernement chinois fin 2008, il n'existe aucune clause défavorisant les produits étrangers. L'idée, c'est que les sociétés chinoises et étrangères puissent être sur un pied d'égalité en matière de concurrence.
Bon, pas de protectionnisme, nous dit la Chine. Bruxelles, hein, quand même, l'Union européenne s'est inquiétée de l'annonce de ces mesures. Merci beaucoup, Xiao Tai, d'avoir été avec nous cette semaine. On retrouve bien sûr la semaine prochaine pour d'autres business news dans Chine Hebdo.
Au revoir, à bientôt.
Chine Hebdo, Grégoire Favet sur BFM Radio.
Notre patron de la semaine dans Chine Hebdo, donc, c'est le directeur de Cathay Pacific en France, Marc Such. Bonjour.
Bonjour, good morning.
You speak a little bit French, but we're going in English for this interview. Ma première question, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui pour Cathay Pacific dans le monde par rapport au marché du transport aérien en général?
Well, air travel has obviously been hit very seriously by the.
Le marché du transport aérien, comme beaucoup d'autres business, subit évidemment les conséquences de la crise financière. Pour Cathay Pacific, dont le cœur est en Asie, il y a deux fronts ouverts. Le ralentissement de la production manufacturière, tout d'abord, qui impacte fortement notre activité de fret dans le sillage du ralentissement de l'économie chinoise. Et puis Hong Kong, qui est notre maison, est très durement frappée par la crise. Donc c'est clair, les temps sont durs. Oui, même s'il y a toujours une légère demande pour ces voyages business vers l'Asie, mais c'est vrai que ce segment de notre activité est sévèrement touché.
Vous parliez également du transport de fret en Asie, qui est également très important. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions là-dessus?
Oui, le fret, c'est une activité très importante pour nous. Hong Kong, c'est le premier hub mondial pour le cargo aérien. Il y a quelques jours, notre PDG estimait que le marché du fret avait touché son point bas. Mais c'est un point très bas et la pente à remonter est donc très longue.
Justement, comment est-ce que vous voyez maintenant les choses? Comment est-ce que vous voyez évoluer les choses?
C'est difficile à savoir. En plus du ralentissement généralisé de l'économie mondiale, notre secteur subit la grande instabilité des prix du carburant. Et c'est un élément qui va déterminer la manière dont on sortira de cette crise. Pour le cargo, nous pensons que l'activité va se ressaisir dans les six prochains mois, mais le chemin vers la croissance est encore long.
Peut-être un mot également des mesures qui sont prises aujourd'hui chez Cathay Pacific. On voit toutes les compagnies aériennes qui mettent en place un certain nombre de mesures. Comment est-ce que ça se passe chez Cathay Pacific, par exemple, avec vos personnels, avec vos avions?
Évidemment, nous devons faire très attention à nos coûts. En ce qui concerne les avions, nous avons temporairement parqué les plus vieux et les moins performants dans le désert.
Ils
sont stockés en Californie ou en Australie, en fonction de la durée d'immobilisation. Concernant nos personnels, environ 20 000 personnes chez Cathay, nous leur avons proposé de prendre un mois de congé sans solde, sur la base du volontariat. C'est une mesure très populaire qui rencontre un vrai succès, car chacun comprend qu'il faut faire des efforts. En termes de fréquence de vol maintenant, le plus important pour nous, c'est de conserver toutes nos liaisons. Il y en a 17 en Chine, 56 dans le monde. Nous n'en supprimerons aucune, mais nous allons adapter la fréquence des vols les moins rentables.
À propos du monde de demain, de Next World, comment est-ce que vous voyez les choses, et notamment en Chine, qui est un pays émergent, comment est-ce que les Chinois vont voyager demain?
Le marché chinois est vraiment fantastique. Nous avons racheté il y a 2 ans Dragonair. Nous sommes maintenant la première compagnie étrangère en Chine puisque nous sommes basés à Hong Kong. Nous avons également un partenariat avec Air China. On pense bien sûr que la Chine a un grand avenir. Pour l'instant, nous observons une nette hausse des vols domestiques et un peu plus limitée pour les vols vers l'étranger. Mais ça va évidemment s'accroître au fur et à mesure du développement de la Chine.
Dernière question, est-ce que votre business sera le même demain? On en a déjà parlé, mais de manière générale.
C'est une bonne question. Cette crise est la plus importante que nous ayons connue. Je pense que le business model du voyage aérien sera sans doute différent demain. Je ne crois pas forcément à la persistance, par exemple, des premières classes, qui sont un marché de plus en plus limité. Aujourd'hui, beaucoup de compagnies coupent dans leur budget. Si on veut sortir de cette crise, il faudra repenser ces budgets pour construire un modèle plus performant.
Thank you very much, Mark Such. Thank you for being here in Chine Hebdo cette semaine. Mark Such, donc, je le rappelle, directeur de Cathay Pacific pour la France depuis 2 ans, mais vous avez longtemps travaillé pour Cathay Pacific en Asie.
It's a pleasure. Thank you very much.
Et Chine Hebdo continue, bien sûr, dans un instant. On marque la pause, les infos, bien sûr, sur BFM Radio. Et on se retrouve dans un instant avec Sophie Faure, la saga de Sophie, et puis notre dossier de la semaine, on parlera du top 30 des villes chinoises les plus attractives.
BFM Weekend, 18h30. Les infos, Anthony Lattier.
De minute en minute, la situation devient de plus en plus tendue en Iran. Des milliers de manifestants qui protestent contre la réélection du président Ahmadinejad ont tenté de se regrouper malgré l'interdiction du régime. Ils ont été durement réprimés par la police anti-émeute. Des heurts ont éclaté dans la capitale. Et à l'instant, on apprend qu'un homme aurait été blessé par balle, selon un témoin présent sur place. Par ailleurs, en marge de ces manifestations, un attentat suicide a eu lieu au mausolée de l'imam Khomeini. Un pèlerin a été blessé. Ce soir, l'opposant Mir Hossein Mousavi réitère sa demande d'annulation du scrutin. De son côté, le Conseil des gardiens se dit prêt à recompter les voix dans 10% des urnes prises au hasard. Il avait été enlevé en novembre dernier à Kaboul, en Afghanistan, par des talibans. Un journaliste du New York Times a réussi à s'échapper, à regagner la liberté. C'est ce qu'indique le site du quotidien américain. Le journaliste aurait tout simplement franchi le mur de la propriété où il était détenu. Michelin va ouvrir d'ici 3 ans une usine en Inde. C'est ce qu'indique le patron du groupe français, Michel Rollier, qui va investir plus d'1 milliard d'euros sur 10 ans. Michelin a annoncé mercredi la suppression de près de 1100 postes en France. Le retour de Steve Jobs est prévu à la fin du mois. Le PDG du groupe Apple est en congé maladie depuis janvier. Il aurait reçu une grève du foie il y a environ 2 mois, selon le Wall Street Journal. Steve Jobs ne reprendrait pour le moment qu'à mi-temps. La cagoule est désormais interdite en France lors des manifestations publiques. Le décret anti-cagoule du Premier ministre a été publié au journal officiel. Dissimuler volontairement votre visage vous en coûtera désormais 1 500 euros. Le Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne est la deuxième pole position consécutive pour l'Allemand Sébastien Vettel. Rubens Barrichello partira juste derrière lui. Le leader du championnat du monde, Jenson Button, s'élancera lui en 6e position. Et puis, dans moins d'une heure, ce sera le coup d'envoi de la finale de l'Euro 2009 de basket féminin. Elle opposera la France à la Russie. Ce sera à 19h15 précisément. Vous écoutez BFM Radio. Il est bientôt 18h33. Et dans un instant, c'est le retour de Grégoire Favet.
Grégoire Favet sur BFM Radio.
Retour de Chine Hebdo, vous nous retrouvez bien sûr tous les week-ends, vous le savez, hein, le samedi à 18h et le dimanche à 7h sur BFM Radio. Ou via le podcast, hein, pour ceux qui ont vraiment trop besoin de Chine Hebdo, www.bfmradio.fr ou le www.radio86.fr. Dans un instant, notre dossier de la semaine consacré au palmarès des villes chinoises qui consomment le plus. Mais tout d'abord, c'est la saga de Sophie. Sophie Faure, bonjour.
Bonjour.
Alors, saga consacrée à l'aéronautique cette semaine, un salon du Bourget oblige, et vous nous parlez notamment de la CACC, Sophie, la Corporation des Avions Commerciaux de Chine. Hein, les Chinois sont présents au Bourget.
Oui, tout à fait. En fait, les BRICS sont très présents, Brésil, Russie, Inde, Chine. Et c'est une société qui a été approuvée en février 2007 par le Conseil des Affaires d'État, inaugurée officiellement à Shanghai en mai 2008. Elle est en charge de la R&D, de la fabrication et de la commercialisation des avions de ligne gros porteurs. Alors effectivement, ils ont des ambitions. 2017, retenez ce sigle C919, ils souhaitent pouvoir fabriquer, commercialiser des porteurs de plus de 150 places, supposés concurrencer Airbus et Boeing. Et bien entendu, là, on a quand même un poids lourd, parce que le capital enregistré, c'est 19 milliards de yuan, et les actionnaires sont la ville de Shanghai, et avec 1 et 2. Il y a beaucoup d'histoires derrière, puisque l'industrie de l'aéronautique n'est pas forcément aussi vieille que le salon du Bourget, mais ça remonte à 49. Il y avait un traumatisme, puisque lors de la création de la République populaire de Chine, les avions de l'armée d'air qui survolent la place Tiananmen n'étaient pas chinois. Et donc AVIC, aujourd'hui, c'est quand même 560 000 salariés. Et on a une ambition dans un secteur stratégique. C'est pas seulement une volonté gouvernementale, mais la nation tout entière et l'histoire récente. Je rappelle l'assemblage de l'Airbus A320 à Tianjin et la concrétisation des transporteurs régionaux avec l'ARJ21. Qui avance. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'on dit que c'est des grosses barrières à l'entrée et que finalement, d'un côté, que ce soit Boeing ou Airbus ou Embraer et Bombardier sur tous ces transporteurs régionaux, ils sont en train de se faire potentiellement, là encore, point d'interrogation, tailler les croupières.
Voilà, donc les ambitions de l'aviation chinoise, de l'aéronautique chinoise, exposées au Bourget ce week-end encore. Merci beaucoup, Sophie Faure. On vous retrouve la semaine prochaine dans Chine Hebdo.
Chine Hebdo sur BFM Radio.
Le hit parade des villes chinoises en termes de bassin de consommation, notamment, c'est donc le dossier de la semaine dans Chine Hebdo, avec pour base une étude du HKTDC, le Hong Kong Trade Development Council, qui aide les entreprises à se développer en Asie, les entreprises de Hong Kong, mais les autres également, et qui vient donc de publier une étude sur le top 30 des villes chinoises, où l'on voit très clairement qu'il n'y a pas que Pékin, Shanghai ou Canton. Pour en parler avec nous, en studio, Bertrand Moreau. Bonjour Monsieur Moreau.
Bonjour.
Vous êtes le président du CREDIA, donc le Centre de Recherche et d'Études sur le Développement International en Asie. Et en ligne également avec nous, Frédéric Schux. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes à Dalian, une ville du nord-est de la Chine, donc, et vous avez monté là-bas une société d'import-export de vin, c'est ça, Frédéric Schux ?
D'importation et distribution
de vins français exclusivement, parce qu'il y en a d'autres. Voilà. Non, il n'y a que des vins français. Donc DCT Wines, voilà, c'est votre société, Frédéric Schux. Peut-être tout d'abord, Bertrand Moreau, vous avez regardé cette étude du HKTDC. Qu'est-ce que vous retenez des évolutions peut-être sur ce top 30 des villes chinoises?
Oui, la première chose, c'est le maintien du classement que tout le monde connaît de Shanghai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin en tête de liste des villes à la plus forte consommation, dont le montant de consommation par tête d'habitant est de plus de 20 000 yuan, c'est-à-dire pratiquement 2 500 euros. Et par contre, il y a un fait nouveau, c'est l'émergence à la fois de centres urbains qui ont profité de leur relative proximité de cette grande capitale régionale ou nationale pour ce qui est Pékin, et donc la création d'un tissu et d'un bassin de consommation très important de villes qui représentent à peu près d'habitude finalement à cibler 210 millions de consommateurs potentiels. Donc ces villes sont assez disséminées dans un périmètre proche de la bande côtière. Ce sont essentiellement le delta de la rivière des Perles, les villes de Foshan, les villes de Dongguan, et donc également dans le Jiangsu, les villes comme Suzhou, Wuxi, Shangzhou, Nankin, et également dans un deuxième pôle de développement actuel dans la mer de Hebei autour de Dalian, également dans le Shandong aussi, c'est très intéressant puisque c'est des nouvelles provinces qui émergent. Et puis enfin une dernière vague, ça va être dans le cadre du Go West, les villes qui sont proches dans le Sichuan ou à Wuhan également. C'est ça qui est intéressant, Wuhan devient aussi un grand centre de consommation puisqu'il est très bien classé dans la liste.
C'est le Far West chinois, on va en reparler, voilà. Bien sûr, mais tout d'abord peut-être le témoignage témoignage de celui qui est à Dalian, Frédéric Schulz, Dalian Ville-Côtière également. Vous pouvez peut-être nous présenter la ville très rapidement et nous dire surtout pourquoi est-ce que vous avez choisi Dalian comme point d'entrée pour votre business en Chine.
Oui, bien sûr. Alors d'abord, une présentation rapide de Dalian. C'est une ville donc côtière au nord-est de la Chine, en face, on va dire en gros, en face du Japon, très proche de la Corée. C'est un peu la Côte d'Azur ici de la Chine. En tout cas, c'est le terme qui est employé. C'est une ville moyenne, donc 6 millions d'habitants, ce qui effectivement pour la France peut paraître beaucoup, mais ici en Chine, ça reste une ville secondaire, une ville moyenne. Une ville qui est propre, qui est agréable, qui a été russe, puis japonaise, qui est chinoise seulement depuis la moitié du siècle dernier. Donc c'est une ville assez tranquille, assez agréable à vivre. Il fait toujours beau, il ne faut pas forcément très chaud. Bon, les hivers sont un peu rigoureux, mais c'est une ville qui est agréable. Voilà pour une présentation très sommaire. Maintenant, pourquoi on s'y est installé en fait il y a 5 ans. Donc on est sur un marché très spécifique qui est l'importation et la distribution de vin français, donc quelque chose de très précis. Et aujourd'hui sur ce marché, tout le monde va à Shanghai, à Pékin ou à Guangzhou. Nous, il y a 5 ans, on a pris une décision assez atypique. On est venu s'installer en fait à Dalian pour faire une stratégie un peu de contournement, si on veut bien. C'est-à-dire que on s'est mis dans une ville secondaire où certes la demande n'était peut-être pas forcément très forte en termes de consommation, mais où l'offre donc de nos concurrents était quasiment inexistante. Donc on s'est positionné dans cette ville secondaire en étant un peu tout seul sur le marché. Et au bout de un an et demi, quand on s'est senti un peu plus solide, on est allé sur les grandes villes, donc Shanghai, Pékin, par des moyens un petit peu détournés, sans qu'on fasse trop attention à nous.
Donc,
la raison principale était une raison stratégique, pouvoir créer notre marché et se renforcer avant d'aller attaquer les grandes villes.
Voilà, c'est ça. Mais quand même, le but ultime reste quand même de retourner vers Shanghai, Pékin, Canton.
Oui, aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, je fais 40% de mon chiffre à Shanghai.
La région de Dalian ne suffit pas.
Non, parce que ça suffit au début en termes de consommation pour le vin. Ouais. Encore une fois, je suis sur quelque chose de très précis. Ouais. Aujourd'hui, la consommation du vin, elle est quand même dans les grandes métropoles. On a un très beau marché à Dalian, mais aujourd'hui, il n'est pas suffisant. Et comme on est en croissance depuis 4 ans, il faut forcément aller chercher autre part et donc dans les grandes villes.
Là où il y a les gros bassins de consommation. Bertrand Moreau, ça c'est une tendance qu'on observe également. On va chercher éventuellement des points d'entrée dans des villes moyennes, des villes nouvelles. Mais c'est pour mieux revenir vers les côtes, en tout cas vers les grandes villes historiques.
Ben, tout dépend de votre positionnement et vos moyens marketing, en fait. Si vous avez beaucoup de moyens, ben, vous pouvez attaquer les gros marchés tout de suite. Si vous avez des petits moyens, eh bien, la bonne stratégie, ça consiste à aller dans des petites villes, des petites villes qui montent. Il y a 5 ans, je vous aurais dit Suzhou. Personne ne connaissait Suzhou et c'est devenu maintenant une grosse ville. Et donc, quand les gens qui sont investis il y a 5 ans à Suzhou, ben, ils sont bien placés. Et en plus, ils sont proches de Shanghai. Donc, ils vont faire de bonnes affaires également à Suzhou et également à Shanghai.
C'est tout bénef. On parlait du Far West chinois tout à l'heure. Oui. Où est-ce qu'on en est justement de cette vague de développement du centre et de l'ouest de la Chine ?
Alors, la vague de développement vers l'ouest, elle est quand même organisée par l'État chinois. C'est-à-dire que il y a des politiques d'accompagnement, déjà pour l'investissement, pour des outils de production déjà. Mais tout ça va créer en fait un environnement favorable parce que ces politiques favorables amènent des investisseurs nouveaux, éventuellement étrangers. Ça crée des hausses de salaire locales. Donc une ouverture de la ville qui elle-même devient ensuite plus ouverte à la fois vers les tendances de consommation étrangères et donc susceptible de consommer puisqu'elle a eu des gains de pouvoir d'achat grâce à l'apport de sociétés étrangères.
Frédéric Schulz, vous y pensez au Far West chinois ? Ça fait partie de votre stratégie ?
Aujourd'hui, on a une couverture effectivement qu'on peut qualifier de nationale sur la Chine, puisqu'on arrive à livrer l'intégralité de la Chine, même vraiment l'ouest lointain. Par contre, c'est vrai que ça reste compliqué en termes tout bête de logistique, hein, puisque les aspects logistiques en Chine sont primordiaux, ils sont extrêmement compliqués. Donc aujourd'hui, vu l'étendue du territoire et vu les difficultés des fois pour s'y rendre,
c'est des problèmes d'infrastructure.
Oui, au niveau infrastructure, c'est très compliqué. On a des bureaux dans 4 villes différentes, mais c'est quand même dans les grandes villes. Aujourd'hui, j'hésite toujours à aller vraiment à l'ouest et vraiment très loin, parce qu'il faut avoir une vraie présence, il faut y aller souvent. Et aujourd'hui, on ne fait que des petits coups sur des grandes villes, sur des villes lointaines, parce que c'est encore un petit peu compliqué.
Bertrand Moreau, une petite réaction.
Je voulais dire juste, évidemment, l'infrastructure était un critère, c'est marque bien étudié dans l'étude de Hong Kong, c'est un des critères de choix d'une ville difficile pour développer ses ventes. L'infrastructure est très importante. L'ouverture, on en a parlé, effectivement. Le fait qu'il y ait une base de production et distribution régionale, également, c'est important parce que ça permet, quand vous visez une ville, si vous avez un réseau de distribution qui essaime aux alentours, c'est beaucoup plus favorable pour vous. Et puis enfin, il faut également qu'il y ait des bases de centres commerciaux de qualité, centres commerciaux de qualité, et éventuellement de loisirs même, puisque ça dope la consommation.
Merci, messieurs, d'avoir été avec nous pour parler donc de ce top 30 des villes chinoises en termes de consommation. Le haut du classement ne change pas. Bertrand Moreau, merci, président du Centre de recherche et d'études sur le développement international en Asie. Frédéric Schulz, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir apporté votre témoignage depuis Dalian, où vous êtes implanté, donc où vous avez implanté votre société DCT Wines. Et on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de Chine Hebdo sur BFM Radio, dernière partie entièrement consacrée au livre, avec tout d'abord notre chroniqueur littéraire Stéphane Fier qui sera avec nous, et puis Michel Amiot, un ancien patron en Chine, aujourd'hui à la retraite, qui viendra nous présenter son ouvrage « La Chine au bois dormant ».
BFM Weekend. BFM Radio et le journal du golf présentent BFM Golf, la seule émission radio sur le golf. Chaque semaine, Arnaud Tilous et ses compères reçoivent un chef d'entreprise passionné de golf. BFM Golf, une heure consacrée à l'actualité du golf en France et à l'étranger. Matériel, conseils techniques et pratiques, le golf côté pro. Interview, compétition et sponsoring, le golf côté éco. BFM Golf avec Arnaud Tilous et le journal du golf le vendredi à 23h et le dimanche à 6h, uniquement sur BFM Radio.
Et si cette semaine, BFM, partez en tête à tête. D'abord, je vous apprendrai à profiter à fond de votre ordinateur portable. Enfin, pour filmer toutes nos aventures, je testerai pour vous 9 caméscopes HD à partir de 99 euros. Alors, partant.
Attirant et tellement pratique. Micro Hebdo, c'est un contenu clair. Design, avec toujours plus d'actu, de tests et d'astuces pour 1,95€. Micro Hebdo, simplifiez-vous la vie.
BFM Weekend.
Chine Hebdo, en partenariat avec Radio86.fr pour tout savoir sur la Chine.
Chine Hebdo, Grégoire Favet sur BFM Radio.
Dernier quart d'heure de Chine Hebdo, quart d'heure culture consacré au livre entièrement cette semaine, puisqu'on accueillera un auteur juste après, Stéphane Fier, qui est avec nous chaque semaine dans Chine Hebdo. Bonjour Stéphane Fier. Notre chroniqueur littéraire depuis la Chine. Et cette semaine, Stéphane, vous nous parlez de coquillages. Alors, c'est le titre d'un ouvrage de Gueffet aux éditions de l'Aube.
Oui, alors en fait, c'est pas vraiment de son livre uniquement dont je vais vous parler. C'est surtout d'une rencontre avec lui. Parce que je trouve que dans ce déferlement un peu de tout et n'importe quoi qui provient de Chine, où le pire côtoie trop souvent le moins bon, le pire et le moins bon. Il est bon en fait de se poser un peu et de souffler un peu, puis de prendre de la hauteur. Et quand on prend de la hauteur, d'abord il y a moins de monde, et c'est là qu'on rencontre Gueffet. Alors Gueffet, c'est un écrivain aussi avant-gardiste, donc des années 80, qui s'est fait connaître comme tous les autres, comme Uroy, comme Souton, Mayuen, etc., qui s'est fait connaître en écrivant des nouvelles. Et dans les années 90, il a arrêté d'écrire parce qu'il n'avait rien à dire, selon lui, et ce qui est déjà le signe d'une personnalité relativement forte, alors que souvent beaucoup d'auteurs qui n'ont rien à dire l'écrivent quand même. Et il a recommencé à écrire au milieu des années 2000, et avec une trilogie romanesque dont il a déjà publié les deux premiers tomes, et le troisième est en cours de publication en Chine, hein, pas en France. Et alors en fait, j'ai rencontré, et c'est un homme qui est une personnalité assez singulière, très à part, très fort. Et puis c'est aussi un écrivain qui a une voix très originale et très distinctive de ce qu'on a l'habitude de voir chez les écrivains chinois. En fait, ce qu'il écrit, d'abord, c'est effectivement très chinois, ce qui est d'ailleurs normal, comme ce qu'on attend de lui. Et contrairement à beaucoup d'autres écrivains chinois, il est aussi très universel. Il parle de nous, en fait. Et alors, il parle de nous, et le meilleur moyen de le rencontrer, d'avoir une introduction, en fait, un peu à son univers, c'est de lire Coquillage. Qui est paru donc aux éditions de l'Aube. Coquillage, c'est un petit bouquin de 3 francs 6 sous avec une soixantaine de pages. Et en fait, ce sont 6 nouvelles, très courtes aussi, dans lesquelles des gens s'aiment. Alors, ils s'aiment un moment, une heure, une nuit, une après-midi. Et en fait, ce sont des gens qui ne sont pas mariés ensemble, mais qui, d'une certaine manière, se connaissent tous plus ou moins. Et ces 6 nouvelles, en fait, forment une boucle. Et ça donne envie d'être heureux, ce livre. Voilà, c'est exactement... On ne peut pas dire... quelque chose de plus simple. On le lit, on a l'impression que la vie est belle, on a envie d'être heureux, on a envie de sauter, on a envie de jouer. Et voilà, et donc, à mon avis, c'est un livre qu'il faut découvrir quoi, très rapidement.
Et oui, parce qu'on ne demande rien d'autre que d'être heureux, c'est ça, Stéphane Scher.
Exactement.
Voilà, ouais. Bon, ben voilà, donc...
Dans la cacophonie un peu que de la littérature chinoise actuellement, il est bon parfois de se dire qu'on peut entendre aussi quelque chose de bien.
Et de fort, donc, quel l'univers de Guffey. Donc, vous nous conseillez pour découvrir cet auteur, ces nouvelles qui sont rassemblées au sein de cet ouvrage qui s'appelle Coquillage, donc, et c'est paru aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup, Stéphane Fier. À bientôt dans Chine Hebdo.
BFM Radio.
Chine Hebdo. Dernière ligne droite de Chine Hebdo, quart d'heure culture, traditionnellement, Marion. Et on reçoit cette semaine Michel Amiot qui sort un livre sur sa Chine, la Chine au bois dormant.
La Chine au bois dormant, exactement, et c'est paru aux éditions Télès. Et ça va être l'occasion pour nous de nous plonger dans une Chine qu'on ne connaît pas, puisque c'est la Chine de l'après Mao, la Chine d'après la révolution culturelle des années 73 à 1985. Bonjour Michel Amiot.
Bonjour.
Alors on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous allez nous faire découvrir cette Chine qu'on ne connaît pas, je viens de le dire. Comment est-ce que vous êtes retrouvé en Chine en 73? C'était encore un pays plus que fermé.
Bien, si vous voulez, j'avais une vocation, je dirais, d'industriel, pas du tout ni d'écrivain, ni de même de voyageur. Si, j'avais énormément voyagé dans le monde entier pour vendre des licences de fabrication sur mes produits. Je suis parti en Chine... sachant que je ne pouvais pas compter, alors là je suis très méchant, sur les agences gouvernementales, sur le ministère de l'Industrie. Ce sont des gens, je le maintiens, qui sont uniquement capables de faire des cocktails. Ça, très très bien.
Vous parlez pour les Français ou les Chinois?
Ah non, les Français.
D'accord.
Je ne connaissais pas les Chinois.
Non,
je n'avais jamais vu un Chinois en activité.
Donc il fallait compter sur vos propres forces.
Voilà, absolument. Je suis débarqué là-bas. Bon, j'ai quand même une première approche avec une exposition française en Chine qui a été organisée très tard. J'ai commencé par là. Bon, on n'a rien fait, on n'a rien vendu, on n'a eu aucune touche. Il s'est passé 10 ans. Et au bout de 10 ans, j'ai reçu un téléx. C'est l'ancêtre du mail. Un téléx d'une boîte chinoise que je ne connaissais pas, qui me disait, voilà, on vous commande telle pièce, telle pièce, telle pièce. C'était les plus tordus, je dirais, du catalogue. Et est-ce que vous seriez prêt à donner une licence de fabrication en Chine?
Et là,
j'ai dit, bon, ben on y va. J'ai été voir les gens du ministère. On m'a donné aucune aide, absolument rien. On m'a pas proposé de rien.
Oui, la Chine devait sembler très loin à l'époque.
Voilà, absolument. Et c'était pas bon, passionnant. Et donc, je suis parti tout seul avec ma petite valise.
Et votre catalogue sous le bras.
On a d'abord eu cette exposition. Et puis ensuite, au bout de 10 ans, là, on m'a dit, voilà, on habite Shenyang. Vous venez nous voir à Shenyang. Moi, pour moi, Shenyang, j'avais une carte postale de la Chine. Je savais pas
c'était
très bien où c'était.
De le placer, oui, oui.
Bon, j'y suis quand même allé. J'ai fait une nuit de voyage. Bon, il y avait des anecdotes amusantes que je raconte dans mon livre.
Et que vous allez nous raconter aussi.
Oui, mais c'est très long. Mais bon, j'essaye d'y mettre de l'humour, mais enfin. Donc, je suis parti de Pékin où on m'avait quand même envoyé un interprète anglais pour s'occuper de moi pendant la journée. On m'a dit, voilà, vous prenez le train à 10h et vous arrivez à 11h. J'ai dit, tiens, c'est pas loin. Je pensais que c'était plus loin que ça. En fait, c'était une nuit complète. Et je suis monté dans le wagon, j'avais un wagon-lit, j'ai vu arriver 3 militaires chamarrés, 3 autres beaucoup moins chamarrés.
Vous étiez en couchette molle?
En couchette molle, oui, en couchette molle, qui sont pas mal. D'ailleurs, j'avais eu pire aux Indes en particulier. Et bon, j'ai des anecdotes très plus qu'amusantes, je dirais, sur un ventilateur que je voulais arrêter parce qu'il me soufflait dans la figure et que les généraux qui étaient là ne voulaient pas. Et j'ai compris qu'à 11h, le plan avait décidé qu'on coupait les ventilateurs à 11h, mais pas avant. Des choses comme ça, vous voyez. Bon, les choses amusantes, je dirais, du voyageur néophyte complètement.
Oui, mais ce qui montre bien qu'aller en Chine à cette époque-là, c'était une vraie aventure, encore plus que, enfin, beaucoup plus que ça ne l'est aujourd'hui. Et quand vous êtes parti prospecter en Chine, avant les premiers résultats dont vous nous parlez là. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui vous a poussé? Parce qu'aujourd'hui, un entrepreneur, un chef d'entreprise qui part en Chine, on se dit, bah oui, c'est bien, c'est la bonne stratégie.
C'est une évidence.
C'est un marché émergent, il faut y aller. Mais à l'époque, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui vous a poussé à aller en Chine, Michel?
J'avais quand même déjà commencé sur le Japon. J'avais vendu 2 licences au Japon. Je considérais que les licences avec des redevances c'est très illusoire parce que les produits sont copiés. Et donc, je préférais vendre très cher une technologie et des machines Et c'est ce que j'ai fait au Japon et en Chine.
Et en Chine, c'est vrai qu'on parle souvent, alors encore plus à l'époque où la Chine était d'autant plus fermée, des difficultés pour les, tout simplement pour les entrepreneurs français qui se lancent sur le marché chinois. Certains se sont fait plumer. Vous, comment est-ce que vous qualifieriez votre expérience ? Vous l'avez dit, vous avez fait ça tout seul ?
Si vous voulez, mon expérience, pour moi maintenant, quand j'entends les médias, je ne suis pas retourné en Chine. Je vais y aller, mais je ne suis pas retourné. Quand j'entends les médias et ce qui se passe, je dirais les affaires qui se montent, les joint ventures, etc., je ne comprends pas. Parce que moi, je suis tombé sur des gens... D'abord, il y avait le régime qui dominait tout. Vous aviez trois industriels et quatre ou cinq du parti. Alors, ils se battent entre eux. Ils se battaient entre eux, entre les provinces et le gouvernement central, vous voyez. C'était à qui essaierait d'avoir réussi à avoir une licence. Donc, pour moi, c'est presque incompréhensible de voir ce que ces gens sont devenus. Sauf que je considère que ce sont quand même des gens extrêmement intelligents.
Et donc, entre ces années, vous avez réalisé quelques 14 voyages. Mmh. La Chine a beaucoup changé entre 73 et 85. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, qui observiez régulièrement la Chine ?
Si vous voulez, il y a eu une petite... par rapport à ce qui se passe maintenant, je dirais que c'est extraordinaire. Bien que ça ne me surprend pas, parce que ce sont des gens que je considère que j'ai beaucoup de respect pour les Chinois, mais pour moi c'est quand même incompréhensible, si vous voulez. Quand on pense que, bon, je sais pas, il y avait aucune voiture qui était conduite. Il y avait quelques tracteurs qui zigzaguaient sur les routes, et puis il y avait quelques chauffeurs qui conduisaient des taxis. Vous voyez, on était quand même parqués dans un zoo, à peu près, la première fois, surtout en 73.
Et surtout à Shenyang, parce que...
Non, pas plus qu'ailleurs. À Shenyang, j'étais dans un hôtel. Mais Shenyang est une ville dans le Grand
Nord.
On s'imagine que c'est la Chine. La cuisine n'est pas chinoise. Enfin,
c'est les anciennes provinces mandchoues.
Voilà, c'est ça. Et bon, donc à Shenyang, ça n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est quittés très bons amis. Bon, on s'est écrit, etc. Aucune nouvelle. Et je les ai retrouvés à une exposition où j'ai appris par des concurrents à eux qu'ils allaient venir me voir. 700 kilomètres entre les deux, ils savaient qu'ils allaient venir me voir. Et ils sont venus très vite en disant, nous, on est les meilleurs, laissez tomber ceux de Shenyang. Oui,
le bouche à oreille, même à l'échelle de la Chine, ça marche.
Même à l'échelle de la Chine, ça marche. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout se sait. On est suivi à la trace. Enfin, on l'était.
Vous ne deviez pas être très nombreux aussi à l'époque.
Non, c'était plus facile.
Vous étiez vite repéré, oui.
C'était plus facile.
Vous dites, c'est incompréhensible. Je ne comprends pas. Enfin, ce que ces gens sont devenus, je n'arrive pas à comprendre. Enfin, qu'est-ce qui vous choque, j'allais dire, dans l'évolution qu'ont pu connaître alors les dirigeants des provinces.
Ça ne me choque pas, si vous voulez. Mais je me dis que les gens que j'ai connus, qui étaient les jeunes gardes rouges de 12 ans ou à peu près, sont devenus des jeunes ingénieurs.
C'est une autre.
Donc, il a fallu les former. Comment ont-ils été formés ? Ont-ils été formés à l'étranger ? Viennent-ils ? Je n'arrive pas à comprendre comment on a pu trouver, vous me direz qu'ils sont 1,3 milliard, mais comment on a pu trouver un tel nombre de gens compétents pour faire ce qu'ils ont réussi à faire.
Mais ça aussi, enfin voilà, quand vous dites je ne comprends pas, finalement, c'est aussi une des clés de la Chine, c'est qu'on a beau y aller, on ne comprend toujours pas.
Il faut accepter cette part d'incompréhension.
Peut-être que des gens qui sont assez souvent, comme Stéphane Fier, peut-être peuvent avoir une explication. Moi, j'en ai pas. Honnêtement, j'en ai pas. Alors, peut-être que je vais y retourner, j'en aurai peut-être.
J'imagine que vous devez être assez curieux de revoir la Chine, parce que c'est finalement un nouveau pays que vous allez...
Absolument. Quand on pense aux formalités d'entrée en Chine, c'est extraordinaire. Les rivalités entre deux villes qui faisaient qu'il y avait trois postes de garde militaires entre deux villes pour vous contrôler. Vous voyez, c'est des choses comme ça. C'est vraiment...
Voilà, vous allez être étonné. Un mot pour finir, le choix du titre de votre ouvrage, La Chine au bois dormant.
Si vous voulez, parce que honnêtement, j'ai plagié un peu. Je suis parti du livre de Pierre Fitte, sur quand la Chine s'éveillera. J'ai dit, tiens, pour moi, elle était encore en train de dormir, mais elle allait se réveiller. Elle attendait plus que le prince charmant.
Voilà, oui, l'option prince charmant, voilà. L'économie de marché,
enfin, c'était pour moi, le prince charmant.
Pendant l'économie de marché.
Oui, mais vous avez participé à l'arrivée du prince charmant en Chine.
C'est vrai, c'est vrai.
Michel Amiot, donc, La Chine au bois dormant, c'est paru chez Télès, aux éditions Télès. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous livrer le témoignage. témoignage de votre Chine, hein, que vous avez connue dans des années que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas connues. 1973-1985, hein, voilà, c'est la période pendant laquelle vous avez fait du business en Chine, hein, Michel.
Absolument, bah, écoutez, merci.
C'était déjà l'époque de faire du business.
Merci, j'espère que cette expérience sera profitable éventuellement.
Voilà, donc on lira, relira toutes vos anecdotes.
C'est traité avec un semblant d'humour, mais je dirais, ça n'est pas du tout dirigé contre les Chinois.
Voilà, non, c'est votre expérience.
Je suis d'autant plus à l'aise que j'ai une belle-fille chinoise.
Ah bah voilà, ah oui, la boucle est bouclée.
Qui est un produit direct de la vente de licence.
De la vente de licence.
C'est une
bah vous aurez gagné une belle-fille donc chinoise, Michel Alamiot. Merci d'avoir été avec nous dans Chine Hebdo cette semaine. C'est la fin de cette émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, Marion.
Voilà, d'ici là, passez un excellent week-end. Et donc, Chine Hebdo, rendez-vous samedi 18h, dimanche 7h.
Et le podcast, bien sûr, www.bfmradio.fr, www.radio86.fr.